par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Saye au micro de Canal M. Nous sommes le 17 novembre 2016. Les titres des paractualités aujourd'hui, quand la surdité se développe de façon sournoise, lorsqu'une seule infirmière en titre doit s'occuper de 175 résidents d'un CHSLD. Erreur probable. L'intégration massive d'élèves en difficulté dans les classes régulières, moins d'attente avant d'obtenir un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme dans le réseau public en Estrie. Par actualité nationale et internationale, à Montigny en France, ils imaginent des lunettes caméra pour les malvoyants. Et puis, il y aura deux entrevues aujourd'hui. Il y aura une entrevue avec Isabelle Ducharme, porte-parole du prix Hommage Bénévolat Québec pour la région de Montréal. C'est la période de mise en candidature qui a commencé. Et puis, Lynn Simard, agent de développement et de communication pour le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, au sujet des feux sonores sur la rive sud. Alors, quand la surdité se développe de façon sournoise, qui n'est pas sorti abasourdi et presque sourd d'un concert rock ou techno où les décibels déferlaient à plein régime et sans interruption devant des fans hurlant de plaisir? Heureusement, cette impression d'assourdissement du bruit ambiant et ses sifflements dans les oreilles n'était que temporaire puisque l'audition redevenait normale au bout de quelques jours. Or, les récentes découvertes de Sharon Kujawa de la Harvard Medical School sont loin d'être rassurantes puisqu'elles révèlent que de telles expositions sonores en apparence inoffensives entraînent la destruction des connexions entre certaines cellules auditives et les fibres du nerf auditif dans un premier temps et la mort de ces mêmes fibres dans un second temps. Une telle révélation a bien sûr ébranlé toute la communauté des audiologistes parce que d'une part, la perte de ces connexions nerveuses n'est pas détectée par les tests d'audition classiques et d'autre part parce que les normes de sécurité actuelles ne sont par conséquent plus valables. Selon Tony Leroux, professeur titulaire à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal et vice-doyen des sciences de la santé, cette découverte change tout. Car jusqu'à maintenant, on affirmait qu'une exposition à 75 dB pendant 8 heures était complètement sécuritaire et permettait d'éviter toute surdité. Cette limite a été déterminée alors qu'on exposait les gens à des intensités sonores qui provoquaient des pertes d'audition temporaires et donc qui disparaissaient. Cela remet donc en question l'innocuité de cette norme puisque l'on sait aujourd'hui que ces pertes temporaires entraînent la destruction de certains neurones du nerf auditif. Il nous faut donc revoir le niveau sonore auquel on peut s'exposer sans entraîner la destruction de ces fibres nerveuses. Cela changera aussi le travail des audiologistes qui utilisent comme outil de dépistage des premiers signes de surdité l'audiogramme qui ne détecte pas la disparition de ces fibres nerveuses. Quand un effet apparaît sur l'audiogramme, cela veut désormais dire que la maladie est déjà très avancée. Il sera difficile de savoir quel est le niveau sonore susceptible de provoquer de telles lésions, car chaque personne possède une sensibilité différente aux effets nocifs du bruit qui est déterminé par son bagage génétique, a prévenu Madame Kujawa. Lorsqu'une infirmière en titre doit s'occuper de 175 résidents d'un CHSLD, les erreurs sont probables. C'est la conclusion de l'enquête d'une coroner sur la mort d'un patient survenu l'automne dernier à Québec. Confrontée à de multiples urgences, la professionnelle surchargée s'est trompée dans le dosage d'un puissant narcotique injecté à René Bélanger, 50 ans, en soins palliatifs. Son syndicat dénonce une surcharge de travail et montre du doigt les décisions du ministre de la Santé. La mère du défunt tire les mêmes constats, ça n'avait plus de bon sens, le manque de ressources. Le système de santé, lui, jure de faire de son mieux. Le coroner ne blâme pas l'infirmière, le problème est ailleurs, selon elle. La cause principale des erreurs ce soir-là semble être la surcharge de travail. Elle est porte-parole du prix Hommage Bénévolat Québec pour la région de Montréal, pour la deuxième année d'ailleurs, après avoir été elle-même récipiendaire en 2015. Je m'adresse à Isabelle Ducharme. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Isabelle, c'est ça, je le disais en préambule, vous avez déjà été récipiendaire, vous, du prix Hommage Bénévolat Québec.
Oui, tout un honneur.
Tout un honneur? Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
Ben, vous savez, comme moi, quand on fait du bénévolat, on ne le fait pas pour recevoir des prix.
Non.
On le fait vraiment de façon de bonne foi, avec des bonnes intentions, avec un sentiment de bien-être. Mais il reste que quand on en a fait dans plusieurs organismes et que ces organismes-là disent ben on pense que ce serait une bonne idée de soumettre ta candidature pour souligner le travail que tu fais et que non seulement la candidature est soumise, mais en plus elle est retenue, ben c'est un bel honneur.
Mais oui, je comprends. Du coup, c'est pour ça, j'imagine, Isabelle, que vous avez gentiment accepté de devenir porte-parole, parce que si ça a eu de l'importance pour vous, ça va en avoir pour d'autres.
Oui. Je vous avoue que j'aurais pas arrêté ça n'a rien changé dans mes actions de bénévole, parce que je suis demeurée impliquée dans les différents endroits où je m'implique, dont Kéroul, qui est l'organisme premier qui a soumis ma candidature. Ce que ça a changé, en fait, c'est que il y a eu une valorisation de l'extérieur de ce que je faisais. Moi, je me sentais bien dans ce que je faisais. Je faisais avec cœur. Et là, on dirait que ça m'a donné un petit coup de plus pour dire, ben oui, c'est bon pour toi, mais les autres le remarquent aussi que ça fait du bien. Et je vous avoue que d'aller au Salon Bleu pour recevoir le prix, c'est un bonheur aussi. Il faut le dire, c'est quand même un prix qui est remis une fois l'an et toujours pendant la semaine de l'action bénévole. Mais c'est quand même un prix qui est remis par le gouvernement dans le Salon Bleu et où on est reçu à grande pompe et c'est très agréable.
Mais oui, c'est sûr. Qui vous l'avez remis d'ailleurs directement?
C'était à l'époque, le ministre du Travail, c'était Sam Ahmad.
D'accord, ouais. OK.
Donc, dépendant qui est... Et on invite d'ailleurs les députés de la région où on habite à venir prendre une photo avec nous là, s'ils sont présents à l'Assemblée cette journée-là. Donc, c'est bien particulier.
Mais alors, qui organise le prix hommage Bénévolat Québec?
C'est organisé en partie par le SAQUET. Le SAQUET, qui est c'est l'acronyme que je connais, le SACAIS, sérieusement, vous m'en posez toute une.
Je m'excuse parce que je me demandais, bon, qu'est-ce que c'est exactement que ce prix hommage et donc qui est à l'origine de ça, quoi?
Part définitivement du ministère du Travail
L'ai la réponse, si vous voulez. C'est le secrétariat à l'action communautaire, autonome et aux initiatives sociales.
Alors voilà, merci. Je savais que c'était quand même assez long comme explication.
Qui m'excuse de vous avoir mis dans l'embarras, Isabelle.
Non, c'est correct. Donc, pour ce qu'il faut retenir, donc c'est déjà un bel honneur, il y a plusieurs catégories de prix qui sont remis.
D'accord.
Donc, il y a environ une quarantaine de prix qui sont remis. C'est réparti parmi quatre grandes catégories.
D'accord.
Si on veut soumettre la candidature de quelqu'un, il y a d'abord la catégorie jeune bénévole.
Oui.
C'est le prix Claude Masson. Et ça, c'est pour les jeunes de 14 à 35 ans. Ensuite, on a le prix bénévole, où là, c'est 36 ans ou plus. Vous comprendrez que c'est la catégorie que j'ai reçue. Et il y a la catégorie organisme aussi. Donc, on peut soumettre la candidature d'un organisme qui facilite l'engagement des bénévoles.
C'est ça.
Et il y a finalement un dernier prix qui celui-là est remis seulement à une personne. C'est un prix distinctif en communication pour un ou une jeune bénévole. Mais pour toutes les autres catégories, donc jeune bénévole, bénévole ou organisme, chaque région peut soumettre des candidatures.
C'était ma prochaine question, hein, c'est ça. Il y a un prix pour chaque région, donc.
Absolument.
D'accord.
Donc, c'est ce qui explique que c'est à peu près 40 prix, parce qu'il y a trois catégories, en fait, qui vont se retrouver dans chacune des régions.
D'accord.
Dépendant des années, certaines régions vont soumettre plus ou moins de candidatures. Parfois, on a peut-être certaines catégories où cette année-là, il n'y a personne qui a soumis une candidature. Mais c'est environ 40 prix, plus le prix distinctif où celui-là, c'est vraiment un prix pour l'ensemble.
D'accord. Alors, quand aura lieu la remise des prix?
Habituellement, c'est pendant la semaine de l'action bénévole, ce qui veut dire, je crois que cette année, en 2017, ce sera la semaine du 21 avril.
La semaine du 21 avril.
Oui.
OK. Alors, écoutez, au Québec, hein, c'est ça, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui sont bénévoles. Toutes ces personnes-là, effectivement, méritent notre reconnaissance. Comment on fait pour inscrire quelqu'un ou un organisme?
Bien, déjà, il faut savoir que bénévole, c'est très large comme terme.
Oui.
Hein? Ça inclut des personnes plus jeunes, plus vieilles, on l'a vu dans catégories, mais ça inclut des personnes qui vont faire du bénévolat annuellement, il y en a qui vont faire quotidiennement, chaque semaine, chaque mois. Ça peut être de l'aide aux devoirs qu'on fait parce qu'on est une personne retraitée et qu'on a le temps. Ça peut être quelqu'un qui prend son temps après l'école pour animer du théâtre. Très, très large. Ça
ben
peut
oui,
être lié
c'est
à
sûr.
Toutes sortes d'activités.
Mm-hmm. Et hier, je parlais, au Nouveau-Brunswick, qu'il y a des personnes âgées qui font du bénévolat auprès d'autres personnes âgées.
Voilà.
C'est le fun, hein?
Oui, et c'est important de le souligner
oui.
parce que ces gens-là, souvent, passent un peu inaperçus.
Mm-hmm.
Mais quand on remet des prix comme celui-là et que par la suite, on en parle, bien, ça peut donner une idée à d'autres personnes.
Bien sûr.
Ça peut facilement nous sortir de l'isolement.
Oui.
Ça nous fait rencontrer des nouvelles personnes. Ça nous valorise
oui.
dans ce qu'on fait aussi. On sort du quotidien où on est tellement tout le temps bousculé
oui.
Dans les obligations.
Oui.
Là, ça peut devenir un beau moment, une des belles rencontres.
Vous avez raison de le redire, Isabelle Ducharme, hein, précisons que donner, c'est aussi beaucoup recevoir. Hein?
Exact. Et donc, si les gens veulent soumettre des candidatures, ils peuvent aller sur le site web. Donc, c'est diteluimerci.gouv.qc.ca.
Okay.
Ou sinon, ils peuvent aussi appeler. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est un numéro 1-800-577-2844. Et il y a un poste 68159.
D'accord. Alors, dites-lui merci. Hein?
Oui, dites-lui merci.gouv.qc.ca.
Voilà. OK. Bon, ben, c'est parfait, Isabelle. Je vous souhaite une très belle journée.
Ça fait plaisir.
Merci, puis encore bravo.
Merci.
Allez, salut, au revoir.
Au revoir.
Par actualité régionale maintenant, la question de l'intégration massive d'élèves en difficulté dans les classes régulières a monopolisé les échanges lundi à la consultation publique en éducation qui se déroulait en Montérégie. Tout comme le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx, des membres du syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska étaient présents dans un hôtel de Valleyfield pour aborder les enjeux les plus criants. Cette mesure, apparue avec la réforme des années 2000, consiste à intégrer au régulier presque tous les élèves souffrant d'un problème de comportement, d'apprentissage ou d'un handicap. Ils valent 2, 3, parfois 4 élèves dans l'évaluation de la tâche de l'enseignant. Dans une classe de 30 élèves, tu peux en avoir 10 ou 12 avec un plan d'intervention, dit Monsieur Bédard. Les classes spécialisées ont presque toutes disparu, ce n'est pas normal, ça. L'État a économisé des sommes gigantesques, mais le fardeau est retombé sur l'enseignant, de plus en plus débordé, déplore le président du syndicat. Ils se sentent abandonnés, frustrés, en manque de services. Ils se rendent bien compte qu'ils sont incapables de tout faire. Au primaire, 33% des professeurs prennent un allègement de tâches parce qu'ils n'arrivent pas à tout faire à temps plein. Donc, ils font du rattrapage de façon bénévole et souvent, ça ne suffit pas. L'élève en difficulté ne s'en sort pas mieux, dit M. Bédard. Quand il n'est pas capable de suivre, il se compare aux autres et se sent dévalorisé. Il se décourage et se valorise ensuite avec de mauvais comportements. Bref, ça décuple les problèmes comme le décrochage. Pendant ce temps, l'élève performant s'ennuie à mourir. Le ministre a paru sensible aux récriminations. S'il tient compte de tous les mémoires déposés, je donne la chance au coureur, a dit Éric Bédard. Les consultations publiques culmineront avec une rencontre nationale en décembre. Il faut attendre moins longtemps avant d'obtenir un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme dans le réseau public de la région. Le temps d'attente est passé de 17 à 11 mois grâce à un blitz d'évaluation tenu cet été selon le Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Est, le CISM. La PDG du CISM, Louise Potvin, soutient toutefois que le réseau souhaite améliorer ce délai. Le CISM est parvenu à abaisser ce temps d'attente en injectant 200 000 $ de plus afin d'accroître le nombre de tests de dépistage pour le TSA. Cette nouvelle somme provient du revenu supplémentaire de 5 millions que le réseau de la santé a reçu de la fermeture des livres de l'ancienne agence de santé et des services sociaux de la Montérégie, abolie l'année dernière. Cette somme supplémentaire a permis d'évaluer rapidement 45 enfants de plus en vertu d'une entente avec un partenaire privé. Selon Autisme Montérégie, 3 966 enfants avaient reçu un diagnostic de TSA en 2015, une augmentation de 10% comparativement à 2014. On a un très gros souci sur la rive sud avec les feux sonores. Et oui, il y a parfois des progrès, mais il y a aussi beaucoup de frustration. Et pour nous en parler, je vais m'entretenir avec Lynn Simard, qui est agent de développement et de communication pour le RAM, autrement dit le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour, Madame Simard.
Bonjour, madame. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Bien, écoutez, moi de même, Madame Simard. On a encore beaucoup de soucis, alors, avec les feux sonores sur la rive sud, à tel point même que vous avez organisé une manifestation. D'ailleurs, j'en ai parlé ici même au Par Actualité. Ça s'est passé mardi dernier. Alors, quelles étaient les revendications et est-ce que beaucoup de personnes ont répondu à l'appel?
Oui, nos revendications lors de cette manifestation qui se voulait aussi sensibilisation, c'était de réclamer un feu sonore au coin des boulevards Cousineau et Jacques-Marcille. Pour tout simplement, c'est facile à comprendre, pour un déplacement sécuritaire.
Oui,
comme vous savez, un feu sonore, c'est indispensable pour la sécurité des personnes ayant une limitation visuelle. On veut qu'en tant que citoyen, là, on puisse pouvoir se déplacer de façon autonome et sécuritaire, tout simplement.
Ah, oui.
Puis on était peut-être une vingtaine de personnes.
D'accord. Bon, et alors, parce que je lisais dans un dossier, Madame Simard, et honnêtement, je n'en revenais pas, c'est que cette affaire d'intersection-là, ça date pas d'hier. Ça fait 12 ans que ça dure.
Oui. La demande a été faite en 2005.
Oh, voyons
Mais
donc.
Ça a été voté au Conseil de ville par suite à notre manifestation. J'ai eu un suivi plus serré de la part du service de génie de la ville de Longueuil, qui m'a fait un topo. Alors, notre revendication date depuis 2005, mais même avant 2004, on avait priorisé ce coin de rue-là. Ensuite, le projet a été autorisé au Conseil municipal en mai 2015. À ce moment-là, le ministère des Transports a été mandaté pour réaliser les travaux de leur propriété, qui est la route 112. Et le service génie, très gentil, à Longueuil, ont pris en charge la production des devis pour accélérer les procédures. Alors ça, on est très content de ça. Alors, il a envoyé tout ça au MTQ en juin 2016. Les travaux étaient supposés de commencer cet automne et il n'y a toujours rien. Toutefois, on a su que c'était un petit peu hors de leur contrôle. Il y a des dirigeants qui sont en congé maladie, là. Alors, on peut comprendre aussi, mais nous, on revendique depuis longtemps quand même, là.
Oui, puis j'imagine que du coup, il y a peut-être d'autres petits travaux à droite et à gauche qu'on aurait peut-être pu attendre un petit peu, sans vouloir être mauvaise langue, bien évidemment. Est-ce que c'est l'état général, est-ce que c'est la situation générale des feux sonores sur la rive sud qui est défectueuse et dangereuse ou... De façon générale, comment c'est?
Madame, la question à un million, c'est là où le bât blesse. Il n'y a pas de liste détaillant tous les feux sonores fonctionnels sur la rive sud. C'est difficile d'avoir un portrait réel. Alors, nos membres du comité rive sud qui circulent dans la ville, lorsqu'ils arrivent à certaines intersections, comme vous savez, tendent l'oreille pour entendre ce qu'on appelle communément, nous, le TAC, un petit son qui avertit la présence du poteau pour faire l'appel du signal sonore. Alors, souvent, il est défectueux, alors pas moyen de l'activer. On ne sait pas non plus si les installations des nouveaux feux sont commencées ou non, ou si les feux rapportés défectueux fonctionnent à nouveau. Alors, c'est difficile pour les suivis. Est-ce qu'on a le temps que je vous explique un petit peu pour les suivis quand on rapporte un
J'aimerais
feu défectueux?
J'aimerais bien, bien sûr.
Le citoyen rapporte un feu défectueux à 311. Alors, les préposés, qui est la porte d'entrée de la ville, le 311.
Oui.
Alors, il fait une requête. Il dénonce l'obstacle, il explique toute la situation. Et le préposé, lui, achemine la demande à qui de droit. OK?
OK.
Parfois, ça prend juste 2 jours. Il y a un ingénieur qui appelle directement le citoyen pour faire un suivi, pour lui dire qu'est-ce qui sera fait. Ça, c'est merveilleux.
Wow,
par
oui.
contre, d'autres fois, ça prend des semaines, voire même des mois. Pas de retour d'appel. Alors, le citoyen rappelle pour avoir un suivi. La requête s'est perdue, est devenue inactive dans le système, puis il faut la refaire.
Oui, oui. C'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce qu'il y a des choses dont on peut se réjouir? Est-ce qu'il y a eu quelques avancées?
Ben oui, certainement. Bon. Il ne faut pas être trop négatif.
Bon.
Je ne sais pas combien en a au total, mais certainement pas loin d'une centaine là,
bon.
De plus installés.
Bon. D'accord.
C'est sûr que certaines installations ont pris des années de demande, puis de lutte et d'attente. Par exemple, dernièrement, l'aménagement au coin de Rome et Marie-Victorin à Brossard vient tout juste d'être complété après certainement, je dirais, plus de 10 ans, là. Ouais. Mais il ne faut pas nier qu'on est quand même satisfait de l'existence de plusieurs installations. Hein.
Bon, d'accord.
Oui, mais, ouais.
Ouais, mais ce qui se passe, c'est que, écoutez, pour avoir vécu un peu sur la rive sud, en plus, on parle d'énormes boulevards. Je veux dire, quand on parle de boulevard Cousineau, Marie-Victorin, n'en parlons pas, boulevard Rome, c'est vraiment des boulevards larges, je dirais, qu'une circulation sur 2 ou 3 fils, Tachereau, tout ça, ça prend, ça.
Bien, exactement. Hein? Imaginez-vous, là, au coin Cousineau, Jacques Marseille, justement, 6 voies à traverser en à peine 30 secondes. Là,
ça n'a pas de bon sens.
Avec des virages d'automobiles permis de tous côtés, là, au secours. Là.
Oui, oui. Et même pour les personnes âgées aussi, les personnes à mobilité réduite, tout.
Ben
vraiment
oui, justement,
pour tout
dans ce coin-là, il y a beaucoup.
Justement, est-ce que la population vous soutient?
Bien, lors de notre manifestation, les citoyens habitant autour de la bibliothèque Raymond Lévesque étaient d'accord avec nos revendications. Pour eux, c'est dangereux aussi, là. Puis il y avait aussi des employés de la bibliothèque et des usagers qui nous appuyaient aussi,
bon,
c'est sûr.
Bon. Mais écoutez.
Mais savez-vous que notre argumentaire est assez inclusif? Nous autres, on revendique des meilleures infrastructures urbaines.
Oui.
Pas seulement pour nous, mais
non,
tout
c'est
le
ça.
Monde.
Non, c'est ça. Pas juste pour les non-voyants, absolument.
Ouais, exactement. Pour absolument. Pour toute cette limitation fonctionnelle. Ça peut être vous qui s'est cassé une jambe, puis vous voulez traverser en toute sécurité, puis le cycle piétonnier est trop court, mais là, avec un feu sonore, là...
Non, exactement.
C'est priorité piéton.
Ben écoutez, on vous en remercie, Madame Simard, d'être aussi bienveillant envers toute cette collectivité-là qui a bien besoin de ces services civiques-là.
Oui.
Alors, Madame Lynn Simard, agent de développement et de communication pour le RAM. Merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui et bonne journée, Madame Simard.
Ça m'a fait plaisir. À bientôt.
À bientôt. Par actualité nationale et internationale, le Conseil des Jeux du Canada a lancé aujourd'hui le site web d'inscription du défi actif Jeux du Canada avec la ministre des Sports et des Personnes handicapées, Mme Carla Caltro. Nous sommes très heureux d'ouvrir les inscriptions au défi actif Jeux du Canada et d'offrir aux enseignants à travers le pays la possibilité d'inscrire leurs élèves à ce programme gratuit et amusant qui vise à promouvoir l'activité et la littératie physique, déclare Tom Kinn, le président du Conseil des Jeux du Canada. Le défi, c'est aussi une occasion unique pour les élèves du primaire de célébrer le 150e anniversaire du Canada et le 150e, non pas du Canada, certainement pas, mais le 150e peut-être des Jeux, j'imagine, oui. Et le 50e des Jeux du Canada. Nous avons hâte d'inspirer nos jeunes et de former des champions dans les écoles et les terrains de jeu à travers le Canada. Grâce à cette initiative, les enseignants peuvent inscrire leur classe du 17 novembre, donc depuis aujourd'hui, jusqu'au 27 janvier 2017. Les écoles dont la totalité des classes participent seront ainsi mises à l'honneur. Comment s'inscrire? C'est facile. On s'inscrit sur le site suivant, jeuducanada.ca/Défi actif. Je répète, jeuducanada.ca/défi actif. À l'international maintenant, à Montigny-les-Corbeil, ça c'est un tout petit patelin en France, figurez-vous qu'il y a des gens qui imaginent des lunettes caméra connectées pour les non-voyants. « Je veux gommer mon handicap et vivre comme avant », lance Damien Cotin. Cet habitant de Montigny-les-Corbeil est atteint d'une maladie génétique dégénérative rare, la maladie de Stargardt, qui s'est déclarée lorsqu'il avait 25 ans et se caractérise par une perte de la vision centrale. Aujourd'hui âgé de 35 ans, ce cuisinier pâtissier de formation lance des lunettes caméra connectées pour les malvoyants. Passionné de nouvelles technologies, il a créé l'association Vision
au handicap avec ses amis Benjamin, Florentin et Bastien en février dernier, afin d'apporter un soutien aux personnes atteintes de handicap à travers la recherche et le développement d'outils de compensation. Anatoly, un programmeur russe surdoué de 15 ans, a depuis rejoint l'aventure. Alors, et ils nous disent tous, oui, ok, il y a déjà des outils qui existent sur le marché, mais ils ne fonctionnent pas comme on le souhaite. En tout cas, c'est ce que déplore Damien. Des personnes atteintes comme moi d'un handicap visuel connaissent des progrès technologiques, mais nous savons aussi qu'il faudra attendre des décennies avant de pouvoir les obtenir sur le marché. C'est ainsi que le projet SeaScope a vu le jour. Cette paire de lunettes caméra connectées permet d'accéder au champ de vision de la personne tel un appel vidéo. Installée sur le smartphone de l'utilisateur, l'application mobile permet les échanges entre l'utilisateur et son guide. L'objectif, se déplacer en intérieur et à l'extérieur, mais aussi lire, écrire, cuisiner. En rafale, maintenant, Action 21, édition 2016. Le jeudi 17 novembre, le regroupement pour la trisomie 21 et la Fondation de recherche sur le syndrome de Down sont heureux de vous convier donc aujourd'hui à la 14e édition de la soirée Action 21 qui se déroulera au Centre Mont-Royal. Depuis plusieurs années, les deux organismes collaborent à l'organisation de Action 21, une soirée bénéfice au cours de laquelle les participants sont invités à mettre une contribution à leur talent d'investisseur. Cet événement est une levée de fonds au profit de la recherche, de l'éducation, de l'information et des programmes d'aide aux personnes ayant une trisomie 21. Depuis sa création, cette soirée annuelle a permis d'amasser plus de 5 millions de dollars, et ce, grâce à votre participation. Action 21 est une soirée bénéfice unique puisqu'elle est centrée sur un jeu de simulation boursière. Chaque table débute la partie avec un portefeuille d'une valeur de 1 million de dollars. Mais attention, les rebondissements sont nombreux et la faillite n'est jamais très très loin. Alors pour le coût d'une table pour 8 personnes, c'est 3 000 $ par table ou 1 750 $ pour une demi-table. Si vous voulez des informations, il faut aller sur le site de la Fondation de recherche sur le syndrome de Down, Down, D-O-W-N. Et puis très rapidement, c'est le samedi 19 novembre de 10h à 16h qu'aura lieu la clinique hivernale de vérification des sièges d'auto dans le stationnement intérieur du CHU de Sainte-Justine. C'est gratuit, l'accès au stationnement est gratuit pour les familles participantes à cette activité offerte par le service de traumatologie du CHU de Sainte-Justine. Voilà ce qui complète les paractualités du jour en ce 17 novembre. Merci d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 11h30 et je remercie mon équipe Mathieu Tessier et Anne-Laure Janson. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une excellente fin de semaine.